Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum. Nous sommes le mercredi 10 avril en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain, jeudi 11 avril de 9h à 10h, ainsi qu'en podcast sur Spotify en cherchant Forêt des Possibles et sur radiogalère.fr dans la rubrique Ecoforum. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, probablement que comme nous, vous vous posez plein de questions. La planète va mal, la société est sous tension. Et puis, nous avons nos questions du quotidien, notre famille, notre santé, notre logement, notre travail. Alors, comment concilier tout cela? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Que faire quand tout nous dépasse? Vite, de l'air! Prenez le temps de vous poser. La Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et aux actrices qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Eux aussi se sont posés plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés. Ils ont créé leurs projets, ils répondent à des problématiques du territoire. Surtout, leurs projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chers auditeurs, chères auditrices, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. En tout cas, nos invités témoignent semaine après semaine que c'est possible. Je suis Mathieu et je suis accompagné aujourd'hui de Marin en régie et de Claire avec moi sur le plateau. Bonjour Marin et bonjour Claire.
Hello.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à nos invités.
Et évidemment, de nos invités, Marie-Laure Pluvie et Marie Vandrebremersch, des FADA.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à vous deux. Alors, vous faites partie des FADA, toutes les deux et toutes les trois, même avec Claire, puisque Claire, tu fais partie du collectif, donc ce soir, tu as une position un peu particulière.
Ouais, ce soir, je passe de l'autre côté, pas animatrice, mais invitée, et eux, aux côtés des collègues. Donc, c'est une position assez particulière. Je suis très contente d'être là avec vous toutes et tous.
Eh bien, écoute, Claire, je suis ravi que tu sois notre invitée ce soir avec, avec Marie-Laure et Marie. Alors, Marie-Laure et Marie, est-ce que donc vous faites partie du collectif des FADA, donc le collectif des FADA qui organise des fresques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une fresque?
Alors, oui, bien sûr. Donc, une fresque est un atelier de sensibilisation par le jeu, puisqu'il se compose principalement donc, d'un jeu de cartes, donc selon la thématique environnementale abordée, puisqu'aujourd'hui, il existe plus d'une centaine de fresques. La fresque du climat étant la première fresque et celle qui a impulsé toutes les autres. Et donc, l'idée, c'est de, pendant 3 heures, de comprendre les causes et les conséquences donc, d'une crise environnementale, d'une thématique environnementale, en petits groupes, donc via l'intelligence collective, avec l'idée que les participants comprennent par eux-mêmes et surtout aient envie d'agir à l'issue de la fresque pour limiter les pressions environnementales.
Donc j'imagine, ces cartes, j'imagine qu'elles sont basées sur des faits scientifiques, des chiffres avérés.
Oui, tout à fait. Par exemple, pour prendre l'exemple du climat, toutes les données issues des cartes sont issues des rapports du GIEC, donc du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Si on prend l'exemple de la fresque de la biodiversité, c'est basé sur les données de l'IPBES, et ainsi de suite. Donc il y a toujours une base scientifique derrière, effectivement.
Et alors, vous vous appelez les FADA. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce nom? Ça veut dire quoi, FADA? Moi qui ne suis pas marseillais de souche.
Eh ben moi non plus, mais FADA, c'est un peu pour dire gentiment à quelqu'un qu'il a une petite folie, une petite pépite en lui, en elle. Et nous, on cherchait un acronyme attirant et un peu ancré local quand on a créé ce collectif. On a cherché longtemps, il y a eu beaucoup d'échanges pour essayer de trouver le nom qui nous plaisait le plus. Et en fait, on a lancé FADA puisque, si on détaille l'acronyme, ça peut faire fresque et atelier déclencheur d'action. Et ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on puisse passer à l'action, donc donner des clés aux personnes qui participent pour se lancer et faire des choses, et pas juste s'arrêter au constat. Ça, ce serait peut-être même contre-productif parce que ça peut mettre un petit coup au moral parfois. Et comme il n'y a pas que des fresques, il y a aussi parfois d'autres ateliers qui sont bien complémentaires ou qui peuvent être la première porte d'entrée pour certaines personnes, on voulait aussi représenter le fait qu'il n'y ait pas que des fresques.
D'ailleurs, si je peux me permettre d'enrichir, parmi les autres ateliers qui se basent un petit peu sur le fonctionnement de la fresque du climat, donc quelque chose qui soit ludique, collaboratif, en intelligence collective, on peut notamment citer l'atelier d'automne, qui est très connu, qui est souvent l'après-fresque, notamment en entreprise, on y viendra. Sur Marseille, on a l'atelier 2030 Glorieuse, qui est très connu, et on a aussi l'atelier de l'arbre de l'imaginaire, donc, qui est porté par justement notre équipe à nous, ici à
ça,
la radio.
Maison, ça.
C'est la maison, voilà. Instant promo, auto-promo, ouais.
Instant auto-promo. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, ça me paraît important, on y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes donc déclencheur d'action et on parlera justement de ces actions concrètes qu'on peut mener en tant que citoyen. Ensemble, on y reviendra. On va revenir tout d'abord sur votre parcours à vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à créer ce collectif de 11-12 personnes pour l'instant, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Engagé. Quel a été votre déclic d'engagement personnel ? Il y a une certaine sensibilité, j'imagine, quand même, à ce type de sujet pour arriver à en sensibiliser les citoyens. Est-ce que tu peux nous expliquer, Marie-Laure ?
Oui, bien sûr. Alors moi, ma prise de conscience, elle remonte à 2015, au moment des accords de Paris, de la COP21, où on s'est mis à parler du changement climatique plus que d'habitude. Et donc à cette époque-là, j'étais à Paris, donc c'est vrai que ça m'a interpellée. Et également, un autre élément déclencheur, ça a été la sortie du film Demain de Cyril Dion, la même année, qui pour moi, je pense, a été ma claque, on va dire, environnementale. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, notamment par la voie des déchets, puisque pour moi, c'était l'impact environnemental concret, hein, dans mon quotidien. Et donc, je commençais à m'engager dans le milieu associatif, notamment chez Zero Waste France. Et ensuite, je prends toujours l'image de la pelote de laine où on détricote, en fait, on commence à tirer un fil et puis après on se rend compte qu'en fait, les déchets, faut s'en préoccuper bien sûr, mais en fait il y a d'autres sujets qui viennent aussi avec ça et qui sont tout aussi importants. Et donc ça a fini par en fait une reconversion professionnelle puisque je suis passée du domaine du tourisme, du voyage, à la RSE, donc la compagnie des entreprises dans leur transition environnementale. Donc ce qui m'a aussi amené à Marseille et j'ai découvert donc la fresque du climat dans le cadre de ma reconversion de mes études, dans le cadre d'une rentrée climat, hein, c'est ces plans de sensibilisation massif auprès de l'enseignement supérieur que mène l'association. Et donc voilà, après je me suis engagée, je me suis formée jusqu'à devenir co-référente de la fresque du climat à Marseille, donc avec Marie ici présente.
C'est marrant quand tu parles de détricoter, ça me fait penser aussi à déconstruire parce que finalement je me rends compte que sur le climat ou sur la diversité parfois on a une certaine éducation ou des avis erronés et moi pour avoir expérimenté la fraise de la diversité la semaine dernière, je trouve que ça aide à déconstruire aussi des idées préconçues. Voilà.
Oui, tout à fait.
Et donc toi, Marie, ton parcours, ton déclic.
Oui, et juste avant, du coup, vu que vous venez de parler de la fresque de la diversité, on a parlé surtout des enjeux environnementaux, mais il y a aussi des fresques qui abordent les sujets sociaux. Et donc, il y a la fresque de la diversité, il y a la fresque du sexisme aussi, de mémoire. Mmh. Et je sais que c'est des outils qui se déploient bien aussi sur ces enjeux-là. Moi, mon parcours, c'est que je ne sais pas exactement quand ça a commencé vraiment, mais je me souviens particulièrement d'un voyage lors d'une césure quand j'étais étudiante. J'ai voyagé au Vietnam pendant 3 mois et je me souviens avoir été assez marquée par l'impact de Monsanto sur ce pays tout entier avec la guerre du Vietnam, l'agent orange et puis maintenant avec le glyphosate. Et je me souviens avoir été très en colère. Et cette colère m'a menée à l'action. Et quand je suis rentrée en France, je me souviens, donc c'était vers 2016. Après, quand je suis rentrée en France, j'ai été assez touchée aussi par la démarche zéro déchet qui commençait à être un peu connue, un peu partagée. Et comme Marie-Laure, finalement, en arrivant par cette porte du zéro déchet, de cet impact concret qu'on voit au quotidien dans nos maisons, dans nos apparts, de la poubelle, et ben, en fait, j'ai détricoté aussi la pelote de laine. Et puis, à un moment donné, j'ai vu passer le Tour Alternatiba. Et je me suis investie dans ce mouvement collectif pour la justice climatique et sociale. Et ça m'a vraiment propulsée sur les enjeux climat et sociaux.
Alternatiba qu'on a reçu il y a 3 semaines, je crois, dans cette émission.
Ils sont ici. Des invités réguliers, il me semble aussi. Mais oui, et là, qui reprépare un tour d'ailleurs. Donc, très contente de voir que les projets recommencent.
Merci. Et Claire, tu veux rajouter D'accord. un petit mot sur ton déclic personnel?
En vrai, j'avais envie que tu poursuives, Marie, et que tu nous racontes comment tu es arrivée à la fresque du climat, parce que tu nous as un peu parlé de qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce déclic, l'engagement associatif. Mais la fresque du climat, c'est arrivé quand, comment?
Et ben justement, quand j'étais coordinatrice locale d'Alternatiba à Marseille, j'étais pas toute seule, on était plusieurs, on a reçu un jour un message sur la page Facebook de Alternatiba, et c'était « Hey, coucou, est-ce que vous voulez venir découvrir un jeu ce soir ?» Donc je suis vraiment allée à reculons, j'avais vraiment pas très envie de me mobiliser ce soir-là, mais je suis allée. Et j'ai fait donc, à l'époque, c'était atelier, formation, tout en même temps. Et j'ai découvert le jeu sur le coup. Et la toute première fois, je n'avais pas forcément été convaincue. Et c'est après que je me suis rendu compte du pouvoir de cet atelier. Et il se trouve que chez Alternatiba, j'avais un super copain qui s'appelle Bruno, qui était aussi fresqueur du climat et avec qui on a commencé à faire des fresques sur des coins de table, dans les bars, etc. À chaque événement Alternatiba, on tenait un stand de fresques aussi. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi.
Ok, bah tu vois, on se connaît très bien et je ne connaissais pas du tout ton histoire.
Voilà, maintenant tu sais tout.
Merci. Et du coup, ouais, pour reprendre ta question, répondre à ta question, Mathieu, moi je dirais que mon déclic, quand on me pose la question de quel a été mon déclic, c'est justement la fresque du climat que j'ai faite en novembre-décembre 2022, donc c'est relativement récent. J'avais quand même une sensibilité aux questions climatiques depuis très longtemps, mais c'est l'atelier de la fresque du climat m'a vraiment fait switcher parce qu'ensuite, je me suis investie dans l'association, je me suis formée à l'animation, j'ai rencontré toute cette bande d'animateurs, animatrices qui sont fabuleux, fabuleuses. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, que j'ai rencontré d'autres groupes associatifs, que j'ai rencontré d'autres initiatives, d'autres structures, et ce qui m'a amené aujourd'hui à être ici au micro de Radio Galère, c'est notamment la fresque du climat. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes disent que c'est assez plombant quand on en sort, les nouvelles sont difficiles, etc. Bon, souvent, quand c'est le cas, c'est parce que la partie débrief a été bâclée. Mais moi, j'ai un souvenir d'en être ressortie avec une banane. Ça avait été organisé avec beaucoup de participants, participantes, et il y avait une très bonne énergie et de voir toutes ces personnes qui réfléchissent à ce sujet ensemble, moi ça m'avait donné beaucoup de joie.
C'est exactement comme ça que c'est censé se dérouler.
Oui, finalement c'est un bel atelier de coopération entre les participants.
Ouais, oui, tu apprends. Ouais, c'est ça, parce que il y a aussi toutes ces techniques de COP, d'intelligence collective, avec lesquelles j'étais pas familière à l'époque. Tout ce qui est brise-glace, déclusion, toutes ces choses-là, j'étais pas forcément familière, donc ça m'a aussi introduit à toutes ces méthodes, ouais.
Eh ben, merci à toutes les trois pour votre témoignage personnel. Maintenant, on va passer à la partie au nous, parce qu'on vous recevait il y a un an ici pour témoigner donc sur la fresque du climat. Et là, vous avez formé un collectif, le collectif des FADA. Donc, vous êtes passé à la vitesse supérieure. Donc, déjà, bravo pour ça. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de former un collectif?
Pourquoi ? En fait, c'est venu assez naturellement, de manière assez évidente, de se regrouper en collectif, parce qu'en fait, on est tous multi-animateurs, en fait. On anime plusieurs fresques à ateliers. Bien souvent, le climat nous réunit, mais pas que. Et en fait, il y avait cette volonté de se regrouper, de regrouper nos compétences, notre savoir-faire, savoir-être, pour en fait se rendre tout simplement plus visible aussi auprès du public que l'on touche, qui est donc principalement le public citoyen. En fait, l'Enfada n'a pas vocation à toucher des entreprises. On veut vraiment sensibiliser le grand public. Et donc pour ça, il y avait besoin de se rendre plus visible pour passer à vitesse supérieure, justement. Donc derrière ça, on a créé une identité visuelle et donc des événements, dont le premier, l'épopée du climat, dont on parlera après.
D'ailleurs, l'identité visuelle est canon. Ouais. Bravo.
Merci Benjamin.
Merci à Benjamin Pellegrin. Ouais.
Benjamin, designer qu'on connaît très bien ici à la Forêt des Possibles, puisque c'est aussi lui qui nous a fait la charte graphique.
Il est partout.
Il est partout.
Et je voulais compléter ce que tu viens de dire, Marie-Laure, parce que c'était aussi pour être plus efficace dans le sens où, en fait, on est plein à être dans plusieurs de ces associations qui portent les fresques, puisque chaque atelier a l'association nationale dédiée. Et en fait, en local, c'était pas facile pour expliquer aux gens qu'on animait plusieurs trucs, qui venaient de plusieurs associations différentes, et aussi pour un souci de faire moins de réunions et d'en faire qu'une seule, qui soit dédiée à l'ensemble de ces ateliers, c'était beaucoup plus simple.
L'union fait la force.
Hein. Exactement.
Exactement.
Et donc ce format de fresque, donc j'ai donc compris que, enfin je l'ai expérimenté, donc que c'est un jeu de cartes, un atelier ludique, donc qui dure 3 heures. Comment y participe, selon vous, c'est quoi ses points forts, et comment y participe à la prise de conscience des enjeux écologiques et sociaux?
Déjà, son point fort, il y en a beaucoup, mais celui qui me vient en tête en premier, c'est que ça reste un jeu, en fait. Hein, c'est un atelier ludique. Et l'idée, c'est qu'avant tout, les gens passent un bon moment, apprennent des choses en passant un bon moment. Donc le côté pédagogique, il a fait ses preuves. Hein, depuis nous, qu'on est enfants, on apprend par le jeu en grandissant aussi. Et donc ça marche toujours à l'âge adulte. Donc du coup, c'est assez intelligent d'avoir... penser au jeu comme moyen d'apprentissage. C'est aussi un atelier qui est très visuel, hein, par ce jeu de cartes, qui permet aux participants vraiment de comprendre par eux-mêmes. C'est pas une masterclass descendante en mode conférence, c'est vraiment les participants qui sont acteurs du début à la fin. L'animateur étant là pour veiller au temps, répondre aux questions, veiller au déroulé global. Mais c'est vraiment les participants qui travaillent, entre guillemets. Le côté aussi intelligence collective, hein, le fait qu'on soit en petits groupes, plus il y a d'échanges et plus ça va être riche et plus les participants vont comprendre par eux-mêmes. Donc voilà, s'ils ressortent de l'atelier en ayant en tête que c'est eux qui l'ont fait, qu'ils ont compris, qu'ils ont passé un bon moment et qu'ils ont envie d'agir, clairement, c'est bingo, quoi.
Le pari est gagné.
Ouais.
Et pour les points forts aussi, j'identifie le fait que ce soit facilement réplicable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un atelier, généralement, on peut se former assez facilement en une demi-journée ou une journée. Et en fait, ça permet à toute personne qui a vécu un atelier de le restituer à son tour et de devenir aussi ambassadrice de ces sujets, même si elle n'est pas experte, cette personne. Et l'idée, justement, c'est qu'on n'a pas... Enfin, si on attend qu'il n'y ait que les experts et les expertes qui se saisissent de ces sujets, on n'aura jamais, au niveau du temps qu'on a pour agir, on n'aura jamais le temps. Donc, justement, ça permet aussi à tout le monde de se saisir et de trouver un moyen et un support pour pouvoir parler de ces problématiques. Et c'est assez efficace. Et puis aussi, j'identifie, tu l'as dit, l'intelligence collective, mais c'est aussi un sas où on peut débattre à partir des données qui sont devant nous, et au moins du coup on évite de partager des informations erronées, et c'est vraiment un débat sain à partir de la donnée qui est constatée et donnée dans les échanges, donc c'est vraiment très précieux.
Et alors tout à l'heure tu disais que dans ton parcours d'engagement personnel, que ce qui t'avait amené aussi à t'engager pour le climat, c'est une colère intérieure que tu as ressentie. Et puis toi, Claire, tu disais que le débrief, finalement, de cette fresque t'amène à avoir envie d'agir avec le smile. Donc en fait, parfois, on arrive, on est un peu impuissant, déprimé. Et puis finalement, grâce à cet outil, à cette fresque, on arrive à retrouver un certain optimisme.
Je pense que la partie émotion, en tout cas, dans la fresque du climat, il y a une partie émotion, puis dans la majorité des ateliers, il y a quand même un temps sur comment les participants et participantes se sentent. Et je pense que ça fait partie du process d'accepter que c'est OK d'être triste ou d'être en colère, etc. Et que c'est ça qui mène à l'action, de pouvoir échanger sur ça, sur comment on se sent. Et ensuite, de dire, en fait, ces émotions, elles sont là pour nous mettre en action. Ça fait vraiment partie d'un déroulé habituel.
Et du coup, pour compléter, tu as répété à plusieurs reprises le terme action, et c'est vraiment ça qui va permettre de rester dans l'optimisme, d'être voilà, pas forcément dans la joie systématiquement, mais au moins de voir qu'il y a une voie de sortie positive qui est possible, c'est d'être dans l'action. Et c'est pour ça que FADA, c'est déclencheur d'action, fresque et atelier déclencheur d'action, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut déclencher chez les participants, participantes de nos fresques.
Et pour compléter effectivement l'ambition même de FADA, parce qu'on a tout un groupe de travail en fait quand on a monté le collectif, donc notre raison d'être en fait, c'est d'éveiller les prises de conscience pour déclencher l'action vers la transition écologique et sociale. Et d'ailleurs dans notre logo il y a deux points d'exclamation en fait, hein, il y a un petit clin d'œil justement à l'action pour éveiller en fait et agir au quotidien.
Mais c'est ça, il faut bien regarder dans notre logo, dans les A, il y a deux points d'exclamation qui sont dissimulés. Ça, c'est le génie Benjamin.
Clin d'œil à Benjamin. Sally, donc ce que vous dites, en fait, fait le lien avec ma prochaine question. Concrètement, si on devait citer des leviers d'action, lesquels seraient-ils ? Parce qu'on est quand même beaucoup dans les médias, on est informé en permanence, on nous balance quand même des choses assez crues sur le climat et en plus souvent vérifiées. Les jeunes font de plus en plus d'éco-anxiété, on a une crise sociale qui s'accentue. Donc c'est pas toujours simple, j'ai envie de dire, et pas toujours accessible d'une certaine manière pour les citoyens lambda de s'engager, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Donc est-ce que vous pouvez nous donner des actions concrètes justement pour les citoyens qui veulent s'engager vers la justice sociale et l'écologie ?
Oui, alors il y a plusieurs moyens en fait, plusieurs leviers d'action qui sont à la main des citoyens, et c'est ce qu'on aborde en fait dans la dernière partie, donc notamment des fresques. Pour reprendre par exemple la fresque du climat, mais d'autres également, c'est de mesurer. Je pense que pour s'engager, pour avoir des actions justes, il faut déjà savoir d'où on part, mesurer en fait son propre impact, par exemple. C'est ce qu'on peut faire, notamment en calculant sa propre empreinte carbone. Puisque dans les ateliers, notamment la fresque du climat, on fait un focus sur l'empreinte carbone moyenne d'un Français, qui est aujourd'hui aux alentours de 9,9 tonnes. Et donc on invite les participants déjà à calculer leur propre empreinte carbone. Donc un outil qui est assez génial, c'est nos gestes climat, hein, c'est le calculateur de l'ADEME qui est très très bien fait. Dans l'empreinte carbone moyenne d'un Français, ce qu'on identifie...
Excuse-moi, l'ADEME, tu peux préciser
C'est l'agence pour la transition écologique en fait, une agence publique qui finance la transition écologique, qui émet des rapports, donc il y a beaucoup de données très intéressantes à retrouver sur leur site. Et donc du coup sur l'empreinte carbone de moyenne d'un Français, ce qu'on identifie, les deux postes principaux, c'est le transport et l'alimentation, qui sont les plus impactants chez un Français moyen. Donc déjà, un levier d'action, c'est de repenser notre manière de se déplacer et notre manière de s'alimenter. Et si on veut toucher, aller au-delà en fait, de son impact propre, hein, qui est pour moi l'essentiel, c'est déjà après de réfléchir à notre manière de consommer. Donc moi, je dis toujours qu'on a deux cartes en main, c'est la carte bleue et la carte électorale. Et donc parce que finalement, les actions individuelles influent forcément le collectif étant les entreprises et les gouvernements. Donc il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir sur le collectif. Et dernier point, c'est l'engagement associatif, en fait, qui pour moi est moteur, enfin, et un vrai moyen de lutter contre l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action, et un moyen, c'est de rejoindre les associations qui œuvrent au quotidien pour faire entendre la voix, préserver le vivant. Et plus elles auront d'adhérents, plus elles auront de poids aussi auprès des institutions. Je pense à toutes les associations qui font du lobbying. C'est important de les soutenir, de relayer les pétitions, de valoriser leur action.
Donc ça, ce n'est pas un petit geste, ça compte, c'est en fait.
Un vrai geste.
C'est vrai qu'on en voit pas mal passer des pétitions et parfois ça donne presque un peu l'impression que c'était avant et que ça n'a plus de pouvoir, mais en fait ça compte pour faire bouger les lignes.
Ça compte, très clairement, oui.
Est-ce que Claire ou Marie, vous voulez nous citer des leviers d'action qui vous touchent particulièrement ou...
Oui, bah, Marie leur a parlé de la mobilité, ouais. Et c'est vrai qu'il y a la mobilité du quotidien, donc pour pas mal de personnes, ça comprend des trajets en voiture qui sont assez émetteurs, hein, c'est ça qui représente la majorité, enfin le gros poste dans l'empreinte carbone en France, c'est le plus gros poste en tout cas quand on les détaille, c'est celui-là, c'est la voiture individuelle, parce qu'on prend beaucoup la voiture au quotidien, mmh. Et beaucoup de gens ont une voiture. Et après, bah, y a un enjeu de justice sociale qui concerne les trajets en avion, parce que la majorité des vols sont faits par un tout petit pourcentage de la population mondiale. Et donc ça, c'est vrai que l'avion, c'est souvent décrié comme étant le moyen de transport le plus injuste, mmh. Et le plus émetteur aussi par rapport aux passagers, enfin, quand on ramène aux passagers. Donc c'est vrai que diminuer les voyages en avion, c'est un vrai levier d'action, mais ça concerne une petite catégorie, enfin une petite proportion des gens. Mais c'est vrai que ces personnes-là, bah, dès qu'elles prennent l'avion, ça émet beaucoup. Donc c'est vrai que c'est pas de la mobilité quotidienne, mais c'est de la mobilité pour les vacances ou pour le professionnel, enfin pour les déplacements professionnels, qui peut être assez impactante.
Mais c'est vrai que c'est surtout pour, quand tu dis l'alimentation, ça me parle. Après, c'est vrai que dans un contexte d'inflation énorme, je pense à des Français moyens ou modestes. Et en fait, enfin voilà, quand je vois les prix du bio, j'ai un petit doute sur la capacité en fait à remplir son caddie de manière, on va dire, saine pour la planète. Tout en essayant de réaliser des économies, quoi. Enfin, c'est ce qui me vient un petit peu en tête.
J'aimerais pouvoir profiter de ce moment-là pour faire un petit moment pub pour le Super Cafouche, qui samedi dernier faisait une journée porte ouverte. Et je ne sais pas si vous connaissez le Super Cafouche, mais c'est justement sa vocation à être de proposer de la nourriture bio, locale, de saison, et en tant que coopérateur ou coopératrice. C'est-à-dire que quand vous payez uniquement pour la nourriture, parce que vous allez vous-même faire un roulement et avoir un service, et donc ne pas donner une partie de votre revenu pour des actionnaires ou plein d'autres acteurs qui gagneraient de l'argent là-dessus. Et donc c'est vraiment aussi un de ces acteurs qu'on a reçu à la Forêt qui montre que c'est possible que de manger correctement sans se ruiner.
Mara, il arrive directement avec les solutions. Ouais. C'est parfait, tous au Super Cafouche. Et en plus, il fait le lien avec nos précédents invités. Donc ça, c'est top. Oui, Marie, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter que ce qui coûte cher aussi parfois dans un caddie, c'est la viande. Et il se trouve que la viande, notamment la viande rouge, c'est très émetteur à cause d'un facteur un peu, enfin d'un entonnoir qui fait que pour une calorie animale, il faut 7 calories végétales, et en plus du facteur méthane, les ruminants, ils émettent du méthane qui est un puissant gaz à effet de serre, plus fort que le CO2. Donc en fait, c'est ces deux facteurs cumulés qui font que, par exemple, la viande rouge, la viande de bœuf, ça émet beaucoup. Et comme ça coûte cher aussi, ben, peut-être que déplacer... Mais ça demande beaucoup d'efforts parce que ça demande de se renseigner sur la nutrition un petit peu. Donc c'est difficile comme action, mais ça a un vrai impact. Donc ça peut être aussi moyen de réduire le prix de la viande pour mettre cet argent peut-être dans d'autres nourritures.
Et ça, typiquement, on l'apprend en expérimentant la fresque du climat.
On apprend le fait que ce que je viens d'expliquer là, par exemple, avec les gaz à effet de serre, etc., on apprend l'impact de l'élevage, par exemple. Ouais. Mais malheureusement, en 3 heures, on n'a pas le temps de faire un cours de nutrition en plus.
Bien sûr.
Oui, je voulais juste rajouter sur le sujet nutrition que effectivement le bio, c'est quand même des produits qui sont chers, mais si on achète des produits qui sont bruts, peu transformés, souvent ce sont des produits qui vont coûter moins cher. Il faut juste avoir le temps de cuisiner. Ouais. Voilà, c'était le petit point nutrition que je voulais ajouter.
Merci Claire pour ce point nutrition. Eh bien, on va arriver à notre pause musicale. Alors, on vous a demandé de choisir une musique qui vous tient particulièrement à cœur. Quelle musique avez-vous choisi ?
On a choisi une chanson de Queen, Friends Will Be Friends, et on expliquera après pourquoi.
Très bien. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, la régie va lancer Friends Will Be Friends de Queen. À tout de suite. Now the red letter day, so the power. Et on est de retour sur Radio Galère 88.4 FM. On est sur l'émission La Forêt des Possibles et ce soir, on reçoit les Fadas. On est avec Marie-Laure Pluvy et Marie Vambremersch. Et on est avec Claire Mailloux qui a une double casquette ce soir, qui fait partie du collectif Fada et puis qui est aussi une de nos animatrices préférées sur cette émission.
Quel honneur.
On revient donc sur cette chanson qu'on a entendue de Queen. Pourquoi vous avez choisi ce titre ?
Mais c'est un petit clin d'œil. La dernière fois, on avait choisi une chanson plus sur le constat, etc., du changement climatique. Et là, j'avais envie, dans le choix de la chanson, de montrer que parfois, on est découragé. Dans la chanson, dans les paroles, il dit que parfois, l'espoir est parti. Et on ne sait pas trop comment gérer ça et que les amis sont là pour nous. Et en fait, via ces associations, via ces outils, moi, j'ai été vraiment amenée à rencontrer beaucoup de personnes qui sont devenues des amis proches. Et je trouve que dans un monde où c'est difficile de trouver sa place parfois, retrouver ses amis dans les assos, ça fait vraiment du bien. Et de pouvoir compter sur elles et sur eux. Et en plus, quand on rencontre des gens via ces outils, on sait qu'il y a quand même des bases de valeurs qui sont communes. Donc ça permet de créer des liens assez forts super vite. Et on a des gros coups de cœur amicaux. Donc voilà, c'était pour remercier les Fadas et les fresqueurs et les fresqueuses de toutes les assos qu'on est amenés à croiser, avec qui on crée des très jolis liens. Il y a des petits cœurs qui se font partout, là, vous ne voyez pas. Mais...
en tout cas, vous avez une belle énergie communicative et ça donne envie d'en savoir plus, voire même de rejoindre les Fadas. On va repasser donc à la troisième partie de notre émission. Donc on a parlé de votre engagement personnel sur le moi, on a parlé de votre collectif sur le nous, et on va passer au tout. Alors déjà quelques chiffres. Cette fresque du climat, elle a permis pour l'instant de sensibiliser combien de personnes ?
Alors c'est une très bonne question. Pendant longtemps, l'objectif de la fresque du climat, c'était de sensibiliser 1 million de personnes. Et ce chiffre a été atteint en avril de l'année dernière. Donc, ça fait pile un an. Et là, au niveau... Parce que la fresque du climat, notamment, se joue à l'international, dans plus de 100 pays, je crois. Et on est à 1,6 million de participants et de participantes au niveau planétaire, dont 1,3 en France, quasiment. Donc, quand même, la majorité des ateliers se sont déroulés sur le territoire, vu que c'est une initiative française à la base. Ça explique ces chiffres. Et après, du coup, ça s'appuie sur une communauté de 74 000 personnes au niveau mondial qui animent ces ateliers, dont 54 000 en France. Et 1800 en PACA.
Et pour faire un petit clin d'œil et toujours des liens avec la Forêt des Possibles, le cofondateur du projet, qui s'appelle Loïc Marcet, est un des animateurs et même salariés de la fresque du climat. Il travaille justement à cette partie de structuration de la fresque hors des frontières nationales. Et on lui souhaite beaucoup de courage parce qu'en ce moment, il est dans une période de turbulence. Donc Loïc, si tu nous écoutes, on pense à toi.
Et bisous.
Soutien. On va continuer un petit peu sur les chiffres. Tu nous disais, rappelle-moi, tout à l'heure, tu nous disais l'empreinte carbone d'un moyen d'un Français est de
9,9 tonnes.
Ouais. 9,9 tonnes. Et alors, 9,9 tonnes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? Sur quel référentiel on se base ?
Alors, c'est trop.
C'est trop.
C'est trop, puisqu'en fait, si on veut respecter les accords de Paris, donc limiter la hausse de la température à 2 degrés maximum d'ici la fin du siècle, il faut qu'on atteigne en fait la neutralité carbone en 2050, donc c'est-à-dire émettre autant de gaz à effet de serre que ce que peuvent en absorber les puits de carbone sur Terre, hein, donc étant toute la biomasse et les océans, il faut qu'on réduise en fait notre empreinte carbone à 2 tonnes, enfin, voire un peu en dessous de 2 tonnes, donc 1,8 tonnes par habitant, donc c'est même pas par Français.
Ah oui, donc
c'est...
on n'y est pas du tout.
Non, on n'y est pas du tout, ouais. Donc nous, il faut qu'on réduise en France, mais il y a des pays aujourd'hui qui émettent moins d'une tonne 8, et donc qui sont des pays sous-développés, et donc il faut qu'on puisse baisser en fait, parce qu'on a un budget carbone mondial, on se partage en fait un gâteau collectif, et donc en fait il faut réduire notre empreinte carbone dans les pays très développés pour laisser la place, on va dire, aux pays en développement d'atteindre un niveau de confort, répondre à leurs besoins fondamentaux.
Et pour rajouter un petit complément à ce propos, c'est vrai que ça c'est la moyenne nationale, mais la moyenne du coup potentiellement ça représente personne en particulier. Mmh. Et il y a des grandes disparités avec notamment des personnes qui sont très émettrices, qui vont avoir une empreinte beaucoup plus élevée, et des gens qui vivent en dessous peut-être de la barre des 2 tonnes en France, mais souvent c'est parce que c'est subi et c'est lié à des situations de grande précarité. Et donc l'idée, c'est la dynamique, c'est très important que les gens qui sont, je sais pas, à 30 ou 20 tonnes baissent le plus rapidement possible. Et après que les personnes, que tout le monde s'engage dans une dynamique de réduction. Mais cet objectif-là de être en dessous des 2 tonnes par an et par personne, les 2 tonnes de CO2 équivalent, si on veut être plus précis et précise, c'est d'ici à 2050. Donc ça peut faire peur aussi de ce facteur divisé par 5 ou 6. Mais l'idée, c'est que ça doit être progressif. C'est une dynamique qui ne va pas se faire en un jour. C'est, voilà.
Et sur la question de subi, c'est quelque chose qu'on a abordé il y a quelques semaines avec Anissa Bekouche, qui parlait de la question de parfois être coincé dans certaines générations de pauvreté et avec des volontés parfois aussi d'ascension sociale. Donc il y a un enjeu pour que les classes qui ont un impact carbone parmi les plus élevés redescendent, mais il y a aussi un enjeu pour que celles qui ont aujourd'hui un impact carbone qui est relativement faible restent avec un impact carbone qui est relativement faible. Et ça a toute une question extrêmement complexe sur la volonté de pouvoir s'émanciper, s'élever, avec la représentation aussi qu'on peut avoir de ce que ça signifie que l'élévation sociale. Est-ce que ça se fait via des aspects matériels? Elle disait souvent que en consommant, en fait, on fait partie de la société. Et donc voilà, tous ces enjeux se croisent et ils sont assez complexes.
Et tout à fait, et ça va passer par un grand moment de réimagination, réimaginer collectivement nos récits de réussite, puisque aujourd'hui, c'est ce que disait Marin, la réussite, ça passe par potentiellement la preuve de la consommation avec des biens comme... des Rolex, des choses comme ça, des vêtements aussi beaucoup. Et ça, en fait, c'est le grand piège du capitalisme. Et pourtant, ce récit de la consommation, il existe depuis 200 ans maximum. Et l'idée, ce serait justement de pouvoir s'en émanciper et de construire des nouveaux récits et de travailler sur nos imaginaires. Et il y a d'ailleurs une fresque des nouveaux récits qui existe.
Que Claire anime d'ailleurs dans 2 semaines.
Oui, puisque tu l'as organisé.
Puisque je l'ai organisé, nous faisons beaucoup de choses en collectif, effectivement.
Voilà. Et la fresque des nouveaux récits, si je peux en placer un petit mot, ça va venir justement déconstruire tous nos imaginaires communs et comment on peut créer de nouvelles histoires, donner envie d'avoir, rendre le futur désirable au vu de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, qui est quand même pas forcément réjouissante vu l'état des choses, mais c'est comment on va pouvoir embarquer tout le monde dans cette transition avec des messages qui soient positifs et désirables.
Et quitte à proposer toujours des ressources, sachez qu'il y a le wiki de la Forêt des Possibles qui s'appelle l'Arbre des Imaginaires, qui est un grand wiki qui met en lien et en cohérence des milliers de travaux, des pistes de solutions, des acteurs, des actrices, des œuvres autour de l'allégorie d'un arbre. Donc on vous laisse aller regarder, mais quand on se plonge dedans, on se rend compte que c'est tout à fait foisonnant, connecté, et qu'il y a il y a tout un champ des possibles qui est à construire ensemble.
On va passer maintenant à notre, on y revient souvent dans cette émission, mais à notre triangle de l'inaction, donc les gouvernements, les entreprises, les citoyens. Alors cette question, je vous la pose parce qu'on parle beaucoup donc d'inaction climatique, on a eu le procès du siècle, des entreprises qui font pas mal de greenwashing quand même. Tu parlais des objectifs de neutralité carbone pour 2050, des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, on est déjà clairement en retard en France sur ces objectifs. Moi, je me demandais quelle est la responsabilité du citoyen dans tout ça. Est-ce qu'elle n'est pas infime par rapport au gouvernement, aux entreprises? Est-ce que finalement, cette stratégie du colibri, elle marche ou pas?
Je sais pas si on peut parler de colibri, mais ce qui est important pour moi, et en fait ces arguments-là, je les ai régulièrement quand j'anime des ateliers, et c'est vrai que en fait c'est la réaction classique. C'est vraiment, on a envie de renvoyer la balle parce que changer c'est difficile, ça nous demande de l'introspection, du temps, de l'énergie. Donc c'est sûr qu'on a envie de renvoyer la balle vers d'autres que soi, et on peut construire un triangle de l'inaction avec sur chaque pointe du triangle. Les collectivités, les mairies, l'État, de l'autre côté les citoyens et de l'autre côté le monde économique, mais on peut aussi renvoyer la balle vers d'autres pays, etc. Donc ça arrive souvent, les gens qui renvoient vers « oui mais la Chine » ou « oui mais les États-Unis ». Et en fait, tous ces arguments, ils sont vrais, Mais le truc, c'est que si on n'arrête pas de se renvoyer la balle, en fait, on n'avance pas. Et l'idée, c'est de justement transformer ce truc et ce statu quo en une action coordonnée plutôt, et en fait se poser la question de comment on peut agir avec les autres acteurs de ce triangle potentiellement et faire tache d'huile autour de nous pour que ça embarque un maximum de personnes. Et c'est Valérie Masson-Delmotte qu'on adore qui dit que chaque choix compte, chaque année compte, chaque dixième de degré compte. Et dans cette optique-là.
Tu peux préciser qui est Valérie Masson-Delmotte ?
C'est l'ancienne. Elle était responsable du GIEC au niveau français. Voilà. Donc c'est une climatologue. Et qui soutient les projets de fresques, etc., qui est super. Vas-y, Marin.
Et tu disais qu'il y avait une incidence par rapport au fait qu'on pouvait toujours envoyer la responsabilité vers d'autres pays, vers d'autres responsables. Mais il y a des enjeux liés à l'adaptation aussi, tout simplement. C'est-à-dire que même si les Chinois et les Américains continuaient business as usual, ici à Marseille, on a des enjeux de contraction de l'eau l'été, avec des guerres de l'eau qui sont de plus en plus féroces. La ville de Barcelone, c'est pareil, ils importent leur eau. Et donc, quand bien même, en fait, ils pourraient se considérer comme n'étant pas les principaux responsables de ce qui se passe, il faut s'adapter ici et maintenant. Et les catastrophes et la contraction en ressources se fait de plus en plus prégnante. Donc ça nous touche tout de suite, et quand bien même la façon dont se comportent les autres.
Ouais, tout à fait. Et ce que je voulais dire aussi pour rebondir sur ta question, Mathieu, c'était que on oppose souvent l'action des individus avec les actions collectives. Et souvent, ça s'appuie sur un rapport qui a été fourni en juin 2019 par l'entreprise Carbone 4, qui disait justement faire sa part. Est-ce que c'est efficace ? Et ce rapport, il a été un peu détourné de son objectif, je pense, parce que y a un chiffre qui dit que 25% des actions sont à la main des personnes et que le reste, c'est collectif, justement. Et en fait, dans ce rapport, quand on creuse, ça nous dit plutôt que les individus peuvent avoir jusqu'à 45% de pouvoir sur cette réduction, mais ça prend pas en compte les effets d'influence. Moi, par exemple, depuis que j'ai commencé à agir, j'ai fait des centaines d'ateliers. J'ose espérer, pas pour me la péter, mais juste j'ose vraiment espérer que j'ai embarqué avec moi un petit peu de ces personnes à qui j'ai animé des ateliers. Et du coup, on a le concept d'ombre climatique, par exemple, qui dit toutes les actions d'influence qu'on peut avoir. Et cette notion d'influence, elle est vraiment hyper importante parce qu'il y a les sciences du climat, les sciences de la biodiversité, etc. Puis il y a aussi les sciences sociales qui nous apprennent que pour atteindre un point de bascule au niveau de la société, pour faire des nouvelles normes dans la société, il n'y a pas besoin d'avoir embarqué 90% de la population sur un sujet. Et d'après les sciences sociales, ce serait autour de... Il y a des études qui parlent de 3,5%, des études qui parlent de 10%. C'est pas grave le chiffre en lui-même, mais ce qui compte, c'est que c'est même moins de 50% a priori. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'embarquer un maximum de personnes. Et en fait, quand ces personnes, elles vivent des ateliers, voire qu'elles deviennent animateurs ou animatrices, ben, elles veulent réduire la dissonance cognitive qui fait qu'elles ont appris plein de choses. Si c'est pas raccord avec leur mode de vie, y a de la tension en nous quand c'est pas aligné. Donc on a tendance à vouloir s'aligner et à ce moment-là, on passe à l'action et on fait des choses et on embarque en fait autour de nous. Si moi, chez moi à la maison, je cuisine plus de viande parce que j'ai décidé qu'on n'en mangerait plus à la maison, et ben, du coup forcément ça va embarquer les gens avec qui je vis.
C'est vrai que pour compléter, le meilleur moyen, quelque chose qui fonctionne bien, c'est de donner l'exemple, en fait. C'est pas forcément d'argumenter, d'obliger, de moraliser, en fait, c'est juste de montrer qu'on le fait, de montrer l'exemple et que ça nous fait plaisir de le faire et que c'est pas une contrainte parce qu'on le fait avec de bon plaisir, quoi. Et c'est vrai que ce point de bascule climatique, moi, il m'a beaucoup... déjà, d'avoir ce chiffre en tête, il m'a beaucoup soulagée. Et surtout, ça permet de recentrer l'action, d'éviter un épuisement aussi militant, de se dire, en fait, on va se concentrer sur ceux qui ont envie de changer, qui sont prêts à changer et qui ont le courage pour. Et les autres, en fait, les réfractaires, ils suivront parce que la norme va bouger et on est des animaux sociaux et on ne veut pas se mettre par définition en dehors des groupes, donc le reste suivra, j'ai envie de dire, mais il faut se concentrer vers ceux qui sont prêts, qui ont un intérêt, qui ont envie de changer, quoi.
Et les climato-sceptiques suivront.
Exactement.
Grâce au FADA.
Exactement.
Vous allez nous...
Et par rapport aussi à toutes ces actions-là, que ce soit des actions entreprises ou des collectivités ou des individus, en soi, aucune action toute seule n'est suffisante, mais chacune de ces actions est nécessaire pour la dynamique globale.
En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est très positif parce que quand j'entends le projet FADA, je vois de l'énergie et je vois que vous-même, vous essayez aussi de montrer l'exemple et vous vous saisissez du sujet parce que voilà, il y a quelque chose de fort intérieurement qui vous pousse à le faire, et c'est une belle action en tout cas. Donc bravo pour ça.
Merci.
On est projeté à Marseille en 2030. Donc on a gagné 6 ans. Et là, vous constatez que l'un de vos rêves les plus fous pour la ville s'est concrétisé. De quel rêve s'agit-il ?
De quel rêve ? Il y en a tellement. Mais moi, ce qui me vient en tête, ça serait un Marseille végétal. Voilà. Des arbres en ville, de la nature en ville. Comme le disait Marin, c'est aussi un moyen de s'adapter en fait, au dérèglement climatique. C'est de remettre de la végétation en ville. Les bénéfices ne sont plus à prouver en termes de réduction des îlots de chaleur, d'ombrage, de stockage aussi des eaux pluviales. Hein, les arbres absorbent, permettent de stocker l'eau, stockage de carbone évidemment, donc y a, voilà, les bénéfices ne sont plus à compter, et donc je rêve d'une Marseille verte et végétale.
Et moi je rêve d'une Marseille bleue aussi, avec le fait que, en fait aujourd'hui dans cette ville il y a plein de gens qui vont rarement à la plage, qui profitent rarement de la mer, alors qu'on a ce petit joyau juste à côté de chez nous, et donc aussi peut-être une prise de conscience globale sur la richesse de la Méditerranée et plus de compréhension de cet écosystème et des espèces qui y vivent. Ce serait trop chouette.
Je peux répondre aussi à la question,
Claire,
pour une
que
fois.
Tu peux répondre.
C'est un peu la question récurrente qu'on pose à tous nos invités. Moi, Marseille, en 2030, qui aurait réussi sa transition, c'est... Bah, je te rejoins déjà, Marie-Laure, sur ce que... Bah, Marie aussi, hein, mais sur le côté une ville qui soit végétalisée, et surtout, moi, ce qui me tiendrait à cœur, c'est une ville débarrassée de son trafic routier. On vide Marseille de ses voitures, de ses scooters qui fonctionnent à l'essence. Électrique, on tolère, mais on préfère surtout les vélos. On veut que je voudrais que les rues soient débarrassées de leurs voitures et soient réservées aux piétons, aux cyclistes, que les Marseillais et Marseillaises puissent réinvestir l'espace public, qu'ils utilisent ces endroits pour se retrouver, pour créer du lien, pour faire des fresques dans la rue, pour échanger, pour prendre l'apéro. Voilà, moi j'aimerais que Marseille, que les rues de Marseille revivent avec de la verdure et des humains dedans.
Une réappropriation de l'espace public.
C'est ça.
Lucille, tu voulais nous partager ton rêve pour Marseille en 2030.
Alors, pas mon rêve, mais je voulais poser une petite question. Tu nous as parlé de la fresque des Nouveaux Imaginaires. C'est quand et c'est où ?
J'y vais.
Oui.
La fresque des nouveaux récits, ce sera le mardi 23 avril à 18h au QG des Éco-Acteurs, qui est situé juste derrière le cinéma Artplex.
À Les Gambetta.
À Les Gambetta, c'est ça.
Les Gambetta au réformé, tout à fait.
Mathieu, peut-être que toi-même, tu veux partager ton rêve pour 2030. On peut te poser la question aussi.
Oui, alors mon rêve pour 2030, je vais y réfléchir un petit peu, je vais passer à la question suivante, puis je vous dirai mon rêve après. j'ai loupé une petite question, mais quand je t'entends, que j'avais pour vous, mais quand je t'entends, parler finalement quand je vous entends parler des océans, de l'humain, du vivant, finalement c'est aussi cette prise de conscience climatique, c'est respecter le vivant. Qu'est-ce qu'on appelle le vivant avec un grand V déjà, et en quoi vous, citoyens et formateurs de la presse, vous participez d'une manière ou d'une autre à en prendre soin?
Alors le vivant, c'est tout ce qui vit, donc en fait c'est toute la biodiversité, les animaux, les champignons, les bactéries, c'est l'ensemble, et nous inclus évidemment, on est une espèce parmi tant d'autres. Et d'ailleurs on ne représente que 0,01% du vivant total sur Terre en fait. On est très très infime hein, par rapport à la quantité, à la masse du vivant sur Terre. Et donc effectivement notre vocation c'est aussi de prendre conscience de qu'on fait partie du vivant. En fait, on n'est pas une espèce supérieure à une autre et qu'on a un impact malheureusement grandissant sur les autres et qui pourtant dépendent. Enfin, on dépend beaucoup d'eux. Sans le vivant, sans la biodiversité, on ne serait rien. En fait, on nous apporte plein de services écosystémiques, pour reprendre la terminologie. Mmh. Et donc, c'est important de se recentrer dans cela, et surtout, ça nous permet de tout simplement de garder notre terre habitable. En fait, hein. On parle beaucoup de sauver la planète, mais en fait, c'est de sauver l'humain, quoi, parce que la planète, elle vivra bien sans nous si on disparaît un jour, quoi.
Est-ce que vous auriez une petite ressource à nous recommander ? On aime bien demander à nos invités. On en a cité quelques-unes. Hein. On a parlé de demain le documentaire de Cyril Dion. On a parlé de demain le documentaire de Cyril Dion tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une petite ressource que vous conseilleriez à nos auditeurs sur le climat ou sur...
Ben ouais, plusieurs ressources. Déjà, nous suivre sur les réseaux pour être au courant des différents événements qui vont arriver, pour pouvoir suivre et s'inscrire, parce que c'est des ressources, en fait, hein, ces ateliers. Et ensuite, je pense à deux choses. Déjà, tout ce qu'on fait, ça nécessite beaucoup de coopération. Donc, c'est bien d'apprendre à coopérer. Et pour ça, il y a Fertile, qui est une école de la coopération, qui va bientôt lancer une BD et qui est en train de faire des précommandes. Donc, vous pouvez vous renseigner sur cette BD qui va sortir sur la coopération, qui va, je pense, être super. Pour avoir déjà fait des choses avec Fertile, j'ai beaucoup apprécié. Et un autre outil qui vient de sortir aussi, c'est vraiment tout chaud, c'est un podcast qui s'appelle Liens précieux et qui remet les questions aussi de l'intime, de nos vies personnelles au cœur de ces enjeux environnementaux. Et le premier épisode est sorti hier. Et c'est par exemple sur le fait de, dans un contexte de crise écologique, est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on fait pas d'enfants, quelle est la réflexion autour de tout ça. Et voilà, donc des interviews à venir après avec des gens qui se posent des questions. Et parce qu'en fait, ces enjeux-là, ils touchent à nos vies personnelles aussi. Et donc, l'idée de ce podcast fait par Amandine Lafont, c'est de remettre cette question aussi au cœur de nos luttes environnementales.
Moi, je veux bien prendre la suite. Une petite recommandation climat, c'est le média Climax. Je recommande notamment leur newsletter qui est hebdomadaire. Ils ont aussi un magazine, une super belle édition, garantie sans pub. Voilà, c'est un très bel objet et ils ont un ton qui est très particulier et qui, moi, me régale. Donc voilà, je recommande chaudement.
Donc un média, un podcast, un documentaire, pas mal de, une BD, pas mal de ressources pour se renseigner sur le climat. Et alors, évidemment, si on a envie de retrouver les FADA, quelles sont les dates, où on s'inscrit, comment on participe à une fresque du climat. Est-ce que vous pouvez nous dire les prochaines dates ?
Je peux vous donner toutes les infos. Alors déjà, FADA, on est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous pouvez nous trouver en tapant FADA-du-bas transition, parce qu'il y avait déjà plein de FADA de prix, on a dû se démarquer et nous, on veut déclencher l'action en faveur de la transition. Tous les 18 du mois, nous organisons l'atelier citoyen à la base, donc une fresque du climat. Et ce mois-ci, exceptionnellement, l'atelier du 18 n'aura pas lieu et sera reporté au 20 avril à l'occasion d'un gros événement qui s'appelle l'épopée du climat. Donc ça n'aura pas lieu à la base, mais à l'épopée, comme son nom l'indique, qui est l'épopée, c'est un tiers-lieu dans le 14e arrondissement ou dans le quartier de Sainte-Marthe, notamment un tiers-lieu autour des sujets d'innovation sociale et d'inclusion. Et là, notre objectif, ça va être de faire une fresque du climat géante et de fresquer 200 personnes simultanément. Donc, il y aura plusieurs tables et plusieurs animateurs, animatrices. C'est ouvert aux familles puisqu'on aura des fresques juniors avec la possibilité de faire des fresques parents-enfants ou pas. Et surtout, quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est un événement qui est 100% gratuit. On veut qu'il soit le plus accessible possible. Et voilà, c'est totalement gratuit. On a une campagne de financement participatif parce que si c'est gratuit et que nous, on travaille bénévolement, pour autant, on a des frais, il y a la salle, etc. Donc voilà, le lien d'inscription, le lien de la campagne de financement participatif seront diffusés sur les réseaux sociaux parce qu'on a l'habitude de faire des publications sur la forêt des possibles après chaque émission. Et là, je mettrai toutes les infos pour l'événement. Est-ce que j'ai tout dit ?
Je pense que tu as tout dit à part le fait que c'est le 20 avril après-midi. C'est le 20 avril après-midi de 13h30 à 17h. Et c'est accessible, il y aura un convoi vélo et c'est aussi accessible à partir de la gare de Sainte-Marthe qui est le premier arrêt en TER quand on parle de Marseille-Saint-Charles vers Aix, il me semble. Ouais. Et après, c'est 5 minutes à pied. Donc ça peut sembler loin pour certaines personnes, mais finalement, c'est quand même plutôt accessible.
Ouais, c'est 7 minutes en train. Donc c'est hyper accessible et aussi on n'a pas oublié de parler de ce closing de cette animation de fin de journée. On va recevoir Pastiche 51 qui est un groupe qui a des messages, qui fait des chansons un peu engagées.
Tout à fait, des chansons engagées et à base de parodies de chansons déjà existantes, donc on connaîtra le rythme et on pourra s'interroger sur les paroles. Et il y aura aussi un goûter, c'est un côté familial et festif de cet événement, donc venez toutes et tous, venez nombreux et nombreuses.
Eh ben merci, en tout cas, on a hâte, en tout cas moi j'y serai, ça me tient à cœur. Et venez évidemment toutes et tous à cette fresque du climat géante à expérimenter avec le collectif des FADA. Et je terminerai donc cette émission en répondant à la question de Marin qui se lie en fait au sujet que vous venez d'évoquer avec cette fresque à l'épopée. Moi, mon rêve pour Marseille entre 2030 serait de réduire la distance à parcourir entre les quartiers nord et les quartiers sud. Et quand je vois des événements qui se passent hors des lieux communs qu'on a l'habitude de fréquenter à Marseille, je trouve ça appréciable parce que ça permet d'être accessible au plus grand nombre. Donc bravo pour ça. Merci à vous d'être venus témoigner dans cette émission. Merci Marie-Laure.
Merci à vous.
Merci Marie.
Avec plaisir.
Claire, merci beaucoup d'être passée de l'autre côté de la barrière en tant qu'invitée aujourd'hui.
Et merci à toi pour l'animation en chef.
Merci bravo. Claire, merci bravo, bravo. Marin et merci Lucille en régie. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve mercredi prochain à la même heure sur Radio Galère 88.4 pour l'émission La Forêt des Possibles. À la semaine prochaine.